Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler temps qui court, tous les soirs, une conversation avec les artistes, ce soir, Agnès Sourdis.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
Marie Richeux avec
Agnès Sourdis. J'ai admiré cette pièce peut-être dans la mesure même où ses personnages me restent étrangers. Agis plutôt qu'acteurs, ils se déchaînent à la manière de forces naturelles. Totalement naturelles, oui, en fait. Nulle contradiction, nulle incohérence ne les embarrasse. Toute tentative de justification leur est parfaitement indifférente. Ils aboutissent à des actes pleins comme une pierre qu'il est oiseux d'essayer de juger et dont on peut seulement faire le tour. Le mot « pierre de foudre » conviendrait assez bien pour définir le singulier objet humain que présente à la fin de la pièce Penthésilée, pétrifiée par son acte, consommée par son acte, comme ces belles plantes désertiques qui se consomment dans leur floraison. Ce sont les mots de Julien Gracq, extrait d'un entretien paru dans sa Pléiade. Il a fait, lui, paraître une traduction de Penthésilée de Kleist en 1954. C'est une autre traduction que vous portez sur scène, Agnès Sourdis, dans une mise en scène de Sylvain Maurice, mais je suis certaine que bien des mots de Julien Gracq résonnent pour vous. Bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir.
Vous portez sur scène donc ce texte du 4 au 27 mars, pas toute seule, mais quand même assez seule. C'est à Sartrouville et c'est donc jusqu'à la fin du mois de mars. On commence par un extrait.
Malédiction sur cette guerre des Amazones.
Hey! Ha! Black to cat, 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 go, go! Hey! Hey! Black to cat, 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 go, go!
Eh bien, jeunes vierges en fleurs, mais toutes jeunes Amazones, montrez-moi le fruit de votre promenade.
Agnès Sourdis, on vous entend dans Penthésilée, avec d'autres, ces interprètes, musiciens, musiciennes qui vous accompagnent. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, décrire au milieu de quoi vous vous trouvez?
Alors, je me retrouve déjà au théâtre de Sartrouville, donc au milieu d'une banlieue. Et devant le théâtre de Sartrouville, il y a un grand esplanade. C'est au milieu de rien, on pourrait dire, mais il y a beaucoup de gens qui habitent autour. Et c'est déjà ça, penser mon espace, c'est pas seulement la scénographie. Et sur cette grande esplanade, on avait commencé les répétitions par une petite session au mois de juillet, c'était en pleine canicule.
Dehors donc ?
Non, on répétait dans le théâtre, et il y avait cette immense canicule et tous ces enfants qui partent pas en vacances. Et il y avait juste une petite piscine à trois boutins qui était sur l'esplanade.
Sur l'esplanade du théâtre ?
Avec, une centaine de petits mômes pour cette petite piscine de 6 mètres de diamètre. Et en fait, quand je rentre sur scène, je garde en mémoire cette petite pastille sur l'esplanade. Voilà, quand on me demande au milieu de quoi je suis, il y a déjà toute cette ville, le RER qu'on prend, etc. Après, je rassure les spectateurs, c'est très facile de venir. Il y a des navettes organisées. Et puis pour les gens de Sartrouville, c'est à côté de chez eux. Et pour les Parisiens, c'est tout à fait joignable. Et après ça, on rentre dans le théâtre. Et là, il y a un espace qui est une boîte noire de théâtre. Mais qui est toute faite de lumière aussi. Il y a un grand écran, comme ça arrive parfois, de temps en temps au théâtre, Moi, je crois que c'est mon premier spectacle où il y a vraiment un artiste vidéo qui est là. Ça fait partie de cet espace. Et cet espace, pour moi, il va du lointain de la scène. Le lointain, c'est les coulisses du fond, où j'ai une petite tente pour mes changements rapides de costume. C'est comme c'est le premier truc des Amazones, de mon petit Caucase fertile qui est la terre des Amazones. Cette petite tente de changement rapide, ces trois parois en tissu noir. Et puis ça va jusque, je survole ensuite l'espace scénique, où là je me retrouve avec six musiciens. Il y a le compositeur qui est aussi bassiste, Diane Korolik, et trois chanteuses et deux beatboxers, dont une fille. Et j'essaierai de donner les mots, leurs noms en fin d'émission. Et alors là, bien sûr, c'est l'endroit le plus chaud pour moi, c'est d'être entourée par eux. Et puis après, mon regard, il va au-dessus de la salle, les gratins. Et parce que je peux pas jouer sans penser tout ça. Mmh. Et derrière les gratins, j'ai fait installer deux petites lumières pour attirer mes regards, qui sont derrière les spectateurs. Il y a une petite bleue et une petite rouge, des mires, des choses que je regarde, et qui est comme aussi un focus, voilà.
C'est quelque chose que vous faites souvent ?
Les petites mires, en fait, dans ce spectacle, j'ai l'habitude de parler au public, là je joue très très face, et en fait, j'interprète tous les personnages de la pièce, enfin ceux que Sylvain Maurice, le metteur en scène, a sélectionné dans son adaptation, et donc, en fait, il y a des moments où je parle au public. Hein. Et donc là, j'ai pas besoin de mire, puisque les gens, ils sont là devant moi. Et il y a rien de plus simple que de s'adresser à quelqu'un en face de soi. Même vous, à travers notre micro, on se parle. Mais là, dans ce spectacle, comme un chant contre chant au cinéma, mais où je fais les deux, j'ai besoin de regarder l'autre personnage, en fait, hein, l'imaginer en face de moi. Et cette petite mire, elle concentre, c'est pour me concentrer, en fait, dans le regard de quelqu'un d'imaginaire, et que mes yeux ne papillonnent pas trop. J'ai tellement envie d'aller au public que ça m'aide à rester dans les yeux de cet autre personnage que j'imagine et à qui je réponds automatiquement. Donc c'est comme un chant contre chant de cinéma un petit peu.
Donc vous n'êtes pas ni de celles ni de ceux qui sont ravis d'un noir public pour ne pas voir les visages, sont...
Dans la tricherie, c'est que dans l'absolu, je pense aux gens, et
mais
après moi je les vois, mieux c'est, parce que il y a quand même un problème de concentration. Là je porte une heure de texte, le spectacle dure 1h10 environ, et il y a des morceaux de musique où je disparais, mais sinon la musique et le texte est extrêmement entremêlé, et en fait ça me demande ce que j'appelle concentration, en fait c'est plus c'est pas se rassembler sur moi-même, c'est plutôt être tellement déconcentré hors de moi, c'est plutôt une déconcentration énorme, quoi, pour être tout à ce que je dis, tout ouverte, quoi. Mais pour ça, c'est vrai que forcément le public il a le droit de bouger, de s'il a chaud, il s'évente avec le programme de salle, et il y en a qui regardent leur SMS et il y a pas d'interdit, enfin ils sont là pour vivre aussi. Mais c'est vrai que ça peut terriblement me. Donc c'est vrai que heureux, Dieu merci, les lumières sont pas mal en lumière en latéraux, c'est-à-dire des lumières qui m'arrivent par les côtés, et en fait ça m'aveugle un petit peu, et voilà, j'ai plus besoin de sentir la salle, de faire semblant de la voir, de savoir qu'ils sont là, plutôt que de pouvoir détailler chaque spectateur. Et puis je fais ce métier mais en étant très timide, en fait, et donc voilà, faut pas que je me laisse intimider.
On voit bien, pour ceux qui savent le faire, comment on se concentre très fort, comment on vient très puissamment sur un point et comment on garde cette concentration. Peut-être on voit un tout petit peu moins bien comment on se déconcentre très fort pour être hyper ouvert et n'être que des petites particules de sorte que le texte passe.
Ouais.
Comment on arrive à ça, Agnès Sourdillon ?
Je pense que c'est cette déconcentration à laquelle j'aspire. Ça, on peut donner un nom très simple qui est la détente, c'est-à-dire une manière juste d'être là, de respirer. Il y a tout le travail des répétitions, on est censé avoir acquis des espèces de réflexes tout de même sur et après c'est une espèce de, je me dis, la seule consigne que je me donne vraiment le jour de la première, c'est-à-dire demain pour ce Pentesilé, c'est respire et respire avec ce qui est là. Donc en fait, c'est un état de simplicité, je crois, de un petit peu d'abandon et un peu de légèreté aussi, parce que je crois que si concentration, c'est un terme un peu sérieux, un peu je pense qu'il faut respirer et, mais c'est pas facile.
Donc simplicité, légèreté, respiration.
Ouais, et dire que c'est une chose simple, enfin que le théâtre c'est un rapport simple, c'est ça qui est encore très 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 beau, c'est tellement artisanal, c'est vieux comme le monde, c'est il y a, même si là on est entouré d'une technique très très précise, très savante, en vidéo, en son, en, voilà, en instrument électrique, en, mais que il y a un rapport humain très basique auquel il y a une espèce de confiance comme ça dans un certain naturel peut-être. Donc faut que je fasse mon parcours comme je me ferais une balade en montagne aussi, voilà. Avec des gens que je connais pas, qui sont devant moi.
Mais qui sont sympas.
Bah, ils sont là pour, ils sont venus déjà. Je trouve ça magique qu'il y ait des gens qui viennent. L'autre jour, on a fait une répétition publique, parce que au théâtre de Sartrouville, mais dans beaucoup de théâtres, mais il y a toute une équipe qui travaille derrière aussi pour accueillir les gens, pour les inviter, etc.
Notamment ce qu'on appelle des directions de relations publiques qui peuvent organiser ce genre de moments.
Ouais, voilà. Tout un travail que nous, on fait pas les comédiens, mais qui est fait par, voilà, merci à eux. Et je trouvais ça admirable. Il pleuvait, c'était il y a quelques jours. Il y a 150 personnes qui viennent le soir voir, même pas un spectacle abouti, qui viennent voir un petit bout de répétition. Voilà, je trouve admirable aussi ce déplacement des gens. Et donc, bien sûr, ils sont, je l'espère, bienveillants.
Mais c'est admirable, mais c'est forcément autre chose. Sinon, les gens ne viennent pas. On sait bien que nous nous déplaçons par intérêt. Donc, il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui se passe, d'après vous, Agnès Sourdillon, pour qu'en fait, ça existe, 150 personnes qui se bougent un soir de pluie et qui viennent au théâtre à Sartrouville?
Bon, il y a sûrement un petit peu besoin de quelque chose d'autre dans nos vies que le théâtre peut proposer. Je pense que je ne sais pas quoi exactement, quelque chose un peu imprévisible qui arrive dans le théâtre. Et nulle part ailleurs. Et je pense qu'il y a une telle fatigue quand même dans le monde contemporain de bruit, de saturation que intuitivement au théâtre il se passe une petite bulle de très étrange, très étranger à tout ce qu'on entend et voit ailleurs. Mais de même qu'on peut avoir envie de coller son oreille à une radio intelligente le soir, parce que ça sort aussi de, on est vraiment assommé par des discours dominants ou des informations toutes faites. Je pense qu'il y a un besoin d'oxygène terrible et qui fait que les gens sont prêts à sortir de chez eux, quoi. Sortir aussi d'un sentiment d'oppression terrible, je trouve.
C'est une pièce, à mon avis, extrêmement riche, que, au fond, je caractériserais ce qu'elle a d'original. Peut-être de plus curieux, c'est ce que j'appellerais le sentiment du corps à corps. Ces deux personnages, Achille et Penthésilée, qui se rencontrent sur un champ de bataille qui nous évoque une autre rencontre, presque inévitablement, Achille le dit lui-même, nous fait sentir ce duel, enfin je crois de très près ce duel, le duel dont la haine mortelle des sexes est la base, disait Nietzsche, et nous le fait sentir d'ailleurs, je trouve, d'une manière qui est très originale chez Claes, en ce sens que les sentiments, d'une part, vont jusqu'au bout de leur logique, sans aucune espèce de frein, ce sont réellement des personnages effrénés, et en même temps, je suis sensible au fait que, au lieu que ce nœud de contradiction qu'est Penthésilée, par exemple, se traduise, si vous voulez, dans le simultané, très souvent, les divers mouvements se succèdent, ce qui leur permet de dévaler leur pente jusqu'au bout, enfin de se formuler avec un caractère presque, je dirais, monstrueux. Car un romancier avait appelé, je crois, il y a quelques années, un roman « L'amour monstre », ce pourrait être le sous-titre de Penthésilée.
Oui, tout à fait.
Julien Gracq, donc, dans une archive de 1963, l'émission s'appelait « Théâtre des Nations ». Il parle de la pièce Penthésilée pour la bien connaître, puisqu'il l'a traduit chez José Cortier en 1954. Vous, la version que vous portez, tout aussi belle, c'est Éloi Recoing et Ruth Hortmann qui l'ont traduit, Agnès Sourdillon. Quand vous entendez Gracq dire, finalement, qu'Achille et Penthésilée sont des jusqu'au-boutistes qui vont dévaler leur pente jusqu'au bout. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez dans votre corps sur scène?
Oui, je crois que Julien Gracq, en fait, Il parle très justement, mais je pense que Kleist l'explique aussi très clairement dans sa pièce. Pour ce jusqu'au boutisme de Penthesilée, en fait, elle va, dans la dernière scène de notre adaptation, mais qui est aussi la dernière scène chez Kleist, elle dit à Achille, qu'elle vient de dévorer, qu'elle a tenu parole mot pour mot. Et elle dit, dans le texte, c'est plus d'une femme qui pend au cou de son amant, dit ces mots, « Je t'aime autant que je pourrais te manger. » Mais après, la folle, la voilà rassasiée jusqu'à la nausée. Eh bien moi, Penthesilée, j'ai tenu parole mot pour mot. C'est-à-dire qu'elle a vraiment manger son amour. Là, je divulgue la fin, mais je crois pas que ça cache en rien,
ça cache rien
la découverte du spectacle. Et
donc c'est presque un jusque-boutisme du langage, en fait.
Oui, voilà, je crois.
Ce que je dis, je le fais.
Ce que je dis, je le fais, mais c'est parce que ce que je dis, je n'en suis pas maîtresse. Elle dit, je ne suis pas maîtresse de ma langue agile. Et en fait, là, c'est d'une modernité énorme, quoi. C'est en fait que le langage, elle le sent très bien. C'est aussi un thème très très cher à Novarina, que je pratique beaucoup, avec qui je travaille beaucoup. C'est que le langage, c'est pas un outil de communication. C'est quelque chose qui en sait plus que nous-mêmes, en fait. Les mots en savent plus que nous. Et en fait, Penthesilée, en allant au bout d'elle-même et tout ça, elle se laisse dépasser par le langage. Et en fait, elle va confondre. C'est une espèce de lapsus énorme. Elle va confondre le verbe enlacer avec le verbe lacérer. Donc elle va lacérer son amant jusqu'à le manger. Bon, c'est Eros, Tatanos, c'est plein de thèmes. Mais je crois que ce qui est très 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 beau, c'est cette inversion de langue. Se dire que la langue, elle est à la fois complètement constructrice pour nous, que c'est un don incroyable qu'on a, qui nous est offert par la langue, parce qu'elle nous permet d'aller au-delà de la raison, quoi, au-delà de ce qu'on pourrait, de manière cartésienne, appréhender du monde. Et en même temps, elle peut nous mettre en échec total, parce qu'on est dans la confusion aussi, on peut confondre, enfin, que la langue, elle est à la fois libératrice et puis complètement dangereuse, voilà, qu'elle peut nous brûler terriblement. Et pour la psychanalyse, moi je suis nulle en psychanalyse, j'ai aucune culture de tout ça.
C'est bien.
Mais ça, c'est une chose que je pense qu'a pu être récupérée. Mais là, c'est plus la poésie, en fait, que la poésie nous emmène dans un ailleurs qui est libératoire et vertigineux, voilà.
C'est un texte Heinrich von Kleist que vous avez découvert pas tout de suite là maintenant, Agnès Sourdillon, en le jouant pour Sartrouville. C'est un texte que vous connaissiez ?
Non. J'avais jamais vu. Pour moi, Penthesilée, c'était la reine des Amazones. Et
c'est déjà pas mal.
Non, j'étais très ignarde. Kleist, je le connaissais par un petit texte que j'adore, qui est l'élaboration de la pensée par la parole, où justement, c'est un petit texte, mais d'une moderne, très très drôle.
Qu'est-ce qu'il y dit?
Déjà, où il raconte, je crois que le premier exemple, c'est un tout petit texte, où il raconte qu'il est chez lui, il essaye d'écrire, il n'arrive pas à résoudre un nœud d'écriture. Et en fait, il y a sa sœur, qui est complètement inculte, qui est dans son dos, qui est en train de faire de la couture. Et voilà l'absus. Oups, voilà.
Et vous voyez que vous êtes hyper doué en psychanalyse.
Oui, voilà.
Donc sa sœur, qui fait de la couture. Voilà. Culture.
Et en fait, il se dit, je vais raconter mes soucis à ma sœur. Et en fait, en parlant, il arrive à dénouer là où intellectuellement il calait pour continuer l'écriture de son texte. Et après ça, il donne des tas d'exemples. Il dit, Molière, pareil, il cite l'exemple de Molière qui parle à sa servante. C'est très 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 joliment montré dans le film de Darian Mouchkin, là, le Molière, qui m'a beaucoup marqué, moi, dans mon envie de faire du théâtre. Merci Darian Mouchkin pour ce Molière, et Philippe Cobert. Et il y a une scène où on voit Molière qui improvise. Je crois que dans le film, c'est plutôt avec Armande Béjart qu'avec sa servante. Mais Molière, il est pareil, il trouve pas la fin du malade imaginaire, et puis il improvise, et en fait c'est en improvisant, en se lançant n'importe quoi, qu'il trouve la fameuse scène, le poumon, c'est du poumon que vous êtes malade, etc. Et voilà que des fois en parlant, comme moi avec vous aujourd'hui.
Et comme moi avec vous aujourd'hui.
Et voilà, on... Enfin, que la pensée... c'est très beau aussi, se dire qu'on a absolument besoin de l'autre pour penser, quoi, pour... voilà.
Que alors, vous faites l'autre. Comment, vous qui êtes seule avec une heure de texte dans la voix? Vous n'êtes pas complètement
seule.
En fait,
je suis pas seule parce que je suis avec le texte. Un des textes les plus beaux qui m'a été donné de jouer, ça s'appelait La langue d'Anna. Anna, ça faisait référence de loin à Anna Magnani, même si elle était jamais citée. Et c'était un monologue qui n'était pas destiné au théâtre, écrit par Bernard Noël, et qu'avait adapté et mis en scène Charles Torchman. Et c'était cette actrice, Anna Magnani, qui parlait par la voix de Bernard Noël. Et elle disait que quand elle jouait, c'était un mot très fort, elle disait qu'il y avait une copulation verbale avec le texte qu'elle était en train de dire. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un roule, quand on sait bien son texte par cœur, il y a des épousailles avec la fibre des mots, le phrasé, toutes les consonnes, les voyelles, et qui fait qu'on n'est pas seul, enfin qu'on s'embarque dans une flamme du langage. Je me sens jamais seule, en fait, sauf avant, en coulisses. Ou là, on peut se sentir un petit peu seul. Parce qu'il y a une responsabilité qu'on est un petit peu seul à assumer au moment de jouer, quoi.
Ces textes, donc, que vous appelez monologues, comme le discours aux animaux, les monologues d'Adramelec, dans un premier temps, ils ont été dialogués. Il y avait des tirets, c'était des voix. Dans un premier temps de l'écriture, j'entends des voix dans l'espace. Je n'entends pas une voix, mais des voix. Et puis, ces voix ensuite soit se multiplient, s'écartèlent, germent à n'en plus finir, soit sont tenues par un seul. Mais bien entendu, les monologues sont polyphoniques et vice-versa. Enfin, si vous voulez, je ne sais pas comment vous dire, mais il me semble toujours que c'est le langage lui-même qui parle. Qu'il faut non pas écrire des dialogues ou écrire des monologues ou se préoccuper de choses comme ça, mais simplement porter la langue à son oreille et puis écouter ce qu'elle dit. Écouter les voix qu'il y a dans la langue, écouter la pluralité de la langue, écouter le drame des mots.
1994, c'est Valère Novarina. Sur France Culture, dans Nuit Magnétique, Agnès Sourdillon, vous disiez avoir beaucoup pratiqué, beaucoup travaillé avec Valère Novarina. Il dit lui aussi qu'il faut écouter le drame des mots, qu'il faut écouter la langue qui parle, pas nécessairement vouloir à tout prix se parler. Qu'est-ce qu'il y a dans ce travail avec Novarina sur plusieurs années, sur différents textes, qui, comme ça, infuse en vous, pour vous?
Déjà, merci de me faire écouter cet extrait, parce que ne serait-ce que la voix de Valère et comment il parle très 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 bien, ou qu'il soit qu'on parle en tournée, on fait des rencontres, qu'il parle à des scolaires ou pour les Nuits Magnétiques à France Culture, où il parle magnifiquement bien, Valère, et en même temps j'adore comment sa voix chaude trébuche, se cherche. On entend bien qu'il écoute effectivement les mots aussi venir et tout ça. Parce que comment ça infuse pour moi Novarina, c'est quelque chose d'énorme. C'est moi qui j'avais vu un de ses spectacles, Je suis, quand j'étais mais vraiment toute jeune débutante comédienne. Et ça m'avait tellement éblouie, ça m'avait fait tellement... J'ai été bouleversée, quoi, par ce spectacle. J'avais ri, mais quand le rire révèle en soi des trucs incroyables, enfin, vraiment le vrai comique, celui que j'adore, quoi, celui de Charlot, l'humour qui est de la connivence et tout ça. Vraiment le rire où c'est tragique et drôle, quoi, voilà, ça m'avait vraiment bouleversée. Et du coup, j'avais sollicité de rencontrer Valère. Donc c'était vraiment un choix d'aller vers lui. Et depuis, ça va faire 30 ans, je crois, qu'on ne se quitte pas, qu'on se retrouve régulièrement pour les spectacles. Donc pour moi, c'est absolument fondateur. Après, je veux pas du tout le considérer comme un maître, il aurait horreur de ça. Et puis moi aussi, ni Dieu. c'est énorme. Puis en fait, tout ce que j'aime, finalement, ça finit toujours par recouper parce que ce que Valère propose, même dans sa peinture, il peint beaucoup en ce moment. Voilà.
Vous sauriez dire en quoi, pour les personnes qui connaissent pas du tout ni le travail de Valère Novarina, ni ses textes, ni sa pensée sur la parole, le verbe, le corps des acteurs. En tout cas, pourquoi c'est important pour vous ou ce que vous y trouvez d'important.
Je pense qu'il y a quelque chose de... Il fait part d'un effroi existentiel qu'on a tous, des recherches. Mais il le fait contrairement à d'autres, dans une espèce de confiance, en fait, une espèce de base de confiance dans la vie. Il y a quelque chose de chaud, quoi. Je crois que je suis attirée par tous les problèmes. En fait, il y a un mot que j'aime pas, justement. C'est recherche, problème. En fait, il voit les choses comme des choses en mouvement, dans lesquelles on peut aller chercher, etc. Mais il fait ça dans une espèce de très grande liberté qui est loin de l'angoisse. Donc en fait, ça pose toutes les bonnes questions, mais avec un fond très confiant, je sais pas, je le ressens comme ça.
Ah oui, c'est marrant, parce que moi je vois pas du tout Valère Novarina si loin de l'angoisse que ça. Pour moi, il est deux pieds dedans, quoi. Mais il y est peut-être joyeusement.
Oui, voilà, je pense qu'il y a un enthousiasme. Et voilà, il n'évite rien. Mmh. Il va même... jusqu'à tout décomposer.
Parce que quand vous parlez d'effroi existentiel, Agnès Sourdillon, c'est quand même aussi ça qui l'agite, Valère Novarina.
Oui, puis il est... Ce qui est vertigineux aussi, c'est... Pampidi dit, il faut ranger il faut bien ranger le langage dans le désordre pour pouvoir brûler toutes nos idées et toutes nos représentations.
C'est vrai que c'est un peu drôle.
Voilà, donc tout est comme ça. C'est-à-dire, on va mettre sur le bûcher toutes nos idées, toutes nos représentations. Donc c'est un joyeux, il y a un brûler tout, quoi, qui est vertigineux. Représenter l'homme tout autrement. Ça, c'est tout autrement. C'est Valère, mais c'est aussi Kleist, en fait, je pense, d'un tabula rasa, cacher tous les grands artistes, refaire sans cesse, de se dire toutes les représentations qu'on a, on peut les remettre en question. Mais il y a une manière, qui est heureuse de le faire et ouais dans la joie de vivre, je crois. Même Penthesilée, qui on a entendu l'extrait de Gracq là, qui est quand même un peu tragique sur la monstruosité de Penthesilée. Mais je crois qu'une de ses dernières répliques, c'est elle dit vivre encore me réjouit, même si elle va suicider par la pensée, s'auto-suicider en fait. Renoncer, parce qu'elle répudie ses lois, justement, elle répudie tout ce qui est un acquis, tout ce qui est... Mais elle dit quand même, je suis heureuse, enfin voilà, je pense que c'est essentiel quand même d'avoir envie de vivre.
On entendait aussi Valère Novarina dire qu'il entend des voix, que même quand on parle de ses textes comme de monologues, finalement, ce sont des monologues qui sont agités, qui sont peuplés d'une certaine manière. On pourrait considérer que la manière dont vous portez ce Penthesilée de Kleist, c'est un peu ça, c'est-à-dire à la fois c'est une forme de monologue, puisque c'est votre voix, Agnès Sourdillon, c'est votre corps, et en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans tout ça.
Oui, là, c'est vrai que l'exercice, il est difficile de passer d'un personnage à l'autre, du tac au tac. Mais je le fais pas c'est pas vraiment comme du théâtre très tôt, ou comme,
Non, c'est très, c'est effectivement, en vous, comme ça.
Oui, voilà, c'est vraiment d'une voix à l'autre. En même temps, c'est le rêve je pense que quand on a un petit peu envie de faire du théâtre, d'être comédienne, je pense qu'on a en soi, on entend énormément les rumeurs du monde. On a en soi des rumeurs de voix aussi qui viennent de. Des fois, c'est la voix de nous enfants ou de parce qu'il y a forcément beaucoup d'enfance dans ce qu'on fait. Et il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs, et c'est ces rumeurs-là qui donnent un peu envie de les stabiliser dans une parole qu'on donne au théâtre. Donc il y a les rumeurs de toutes choses, de plein de choses. Et je pense aussi que Valère, quand il parle de plein de voix, c'est... Il parle des fois du langage comme si le langage était un petit animal, en fait. Un petit animal qu'on peut prendre dans ses bras, apprivoiser, qu'on laisse comme un petit chat, quoi, qui s'échappe. Que le langage, c'est une onde, c'est pas une chose qu'on possède, quoi. Et je pense que toutes ces voix, c'est un accueil de toutes ces choses en soi. Enfin, je dis des choses qui ont l'air un peu compliquées, alors c'est assez simple. Voilà, on possède pas le langage, c'est une onde, et puis on est traversé par elle.
Et c'est comme ça.
Et c'est comme ça.
Et même si sa blessure s'offrait à moi béante comme la gueule de l'enfer, je veux le voir. Écartez-vous ! Ah, cette couronne de blessures à son front. Ces roses ensanglantées. Ah, comme ces bourgeons, exhalant un parfum de tombe fraîche et jonchent la terre. Un festin pour la vermine. Qui de vous a fait cela, ô monstre ? Ne demande pas qui a tué le vivant. Par nos dieux éternels, libre comme l'oiseau, qu'il s'en aille loin de moi. Mais qui a fait mourir le mort, je demande. Et vous me devez de répondre. Comprenez-moi bien. Je ne veux pas savoir qui a dérobé à cette poitrine l'étincelle de Prométhée. Je ne veux pas parce que je ne le veux pas, telle est mon humeur, il lui sera pardonné, il peut prendre la fuite. Mais celui qui a défiguré ce jeune homme à l'image des dieux, au point que la vie et la putréfaction ne se les disputent plus, celui qui l'a saccagé, au point que la pitié ne le pleure pas, et que l'amour doit comme une putain se détourner de lui. Celui-là, je veux le sacrifier à ma vengeance. Parlez !
France Culture, par les temps qui courent. Marie Richeux avec
Agnès Sourdillon. Juste avant on dit merci des clous, on entendait votre voix, Agnès Sourdillon, dans une répétition au théâtre de Sartrouville, porter ce texte de Penthésilée de Kleist, dans la traduction des Lois Recoins et Ruth Hortmann. Lorsque vous l'entendez comme ça, ça vous fait quoi ?
D'entendre cette répétition ?
D'entendre le texte, ou de vous entendre vous, d'entendre ces mots ?
Oh, m'entendre moi, on n'est jamais très fan, je crois, de s'entendre soi-même. Oh, mais je suis pas quelqu'un qui aime terriblement parler de moi, etc. Donc, déjà, s'entendre, se regarder, je sais pas, c'est pas...
Alors, parlons du texte.
Oui. Ce que j'entends dans l'extrait, par contre, ce qui me plaît beaucoup, c'est on voit bien, c'est vraiment le projet de Sylvain Maurice, c'est l'imbrication entre la musique et la voix. En fait, j'ai vraiment porté, là, dans l'extrait, c'est surtout la basse électrique jouée par Diane Korolik, qui a écrit toutes les musiques. Et ça fait vraiment comme un cardio, comme une ligne cardio du cœur, quoi, que la basse porte et qui porte aussi.
Et qui vous porte aussi, vous?
Ah oui, qui me porte vraiment. Et où je me coule dedans. Enfin, là, l'échange est très, très beau. Et j'entends aussi dans cet extrait, c'est vrai qu'on peut pas oublier que Penthesilée, ça s'appuie, c'est aussi une épopée, quoi. Il y a l'histoire très profonde, intime de Penthesilée, Achille, une histoire d'amour, tout ça. Mais c'est aussi une épopée. Enfin, derrière, il y a l'histoire des Amazones. C'est quand même un texte, une mythologie incroyable de ces femmes qui décident de se passer d'hommes, qui s'arrachent le sein pour pouvoir elles-mêmes pouvoir tirer à l'arc.
Notamment pour faire passer
le grand arc, pour pouvoir se défendre elles-mêmes, qui fondent un état. Enfin, il y a un truc aussi, on n'insiste pas là-dessus, mais c'est tellement flagrant qu'il y a quelque chose aussi de féministe avant l'heure, ou je sais pas, quelque chose d'énorme et presque très drôle à un moment. Penthesilée, elle explique comment, dans ce peuple qui est composé uniquement de femmes, comment on se reproduit sans le secours des hommes, et qu'en fait elle se débrouille très très bien, quoi. Une espèce de PMA avant l'heure, je sais pas. Donc il y a tout ça, mais il y a aussi il y a de l'épopée là dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Il y a bien sûr Penthesilée, elle est devant le cadavre d'Achille, elle a pas encore compris que c'est elle-même qui l'a dévoré et tué, et c'est comme dans Antigone avec le corps de son frère, enfin cette chose essentielle de pouvoir enterrer le corps, c'est pas tant qu'il soit mort, c'est qu'il soit défiguré. Et donc tout ça, ça nous ramène à ces histoires si belles, si grandes de l'Antiquité. Mais ça me rappelle, enfin moi ça me fait aussi beaucoup penser à cette idée du visage humain, quoi. Et je suis pas du tout experte en philosophie tout ça, mais parmi les quelques textes que j'ai aimé tellement lire, il y a quand même Lévinas et tout ça, où tout ce que nous apprend le visage humain, tout le respect qu'on lui doit. Enfin, je comprends ça à travers.
Bon, je vais glisser que les chemins de la philosophie cette semaine pile poil consacrent 4 de leurs numéros au visage, comme ça renvoie nos auditrices et nos auditeurs à cette écoute. Et vous, si vous le voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est que en effet, tous ces textes de l'Antiquité, et on l'entend bien dans la manière dont vous portez la voix de Penthesilée, qui dit à la limite celui qui l'a tué, qu'il fuit. Je ne ferai pas porter sur lui ma vengeance. Oui. Mais c'est celui qui l'a défiguré. Bon, il se trouve que c'est elle. Mais il y a vraiment quelque chose qui est ce corps qui ne pourra plus ni supporter le deuil, ni supporter la pitié, ni supporter la beauté de la mort, parce qu'en fait on lui a enlevé jusque ça.
Oui.
Évidemment, tant de mythes comme ça, tant d'histoires antiques s'attardent sur le défiguré, qui est l'outrage le plus grand, la violence la plus grande. Vous dites, ça nous fait penser à ces très beaux et très belles histoires et grandes histoires antiques, Agnès Sourdillon, mais ça nous fait penser, en tout cas moi, ça me fait beaucoup penser à des visages contemporains défigurés, à tous ces visages et tous ces corps sans sépulture, sans deuil, sans attention, plus que morts d'une certaine manière.
Ben exactement, il y a l'Antiquité puis la Méditerranée d'aujourd'hui, quoi, c'est insensé, quoi. C'est bien sûr, c'est là où ça bouleverse. Dans la peinture contemporaine aussi, qui a défiguré le visage, tout ça. Et bien sûr, au-delà, la mort est un fait auquel on peut pas échapper. Mais le mal qu'on se fait les uns aux autres, enfin, ça c'est, il y a un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Georges Perros. Et ce Georges Perros, qui a été comédien d'ailleurs, et en fait il est devenu muet parce qu'il a eu un cancer de la gorge, il a arrêté d'être comédien ici, mais il a écrit. Et se sachant malade, à un moment il dit, Finalement, là, se questionner sur la mort, tout ça, c'est trop compliqué, ça nous dépasse, tout ça. Et il finit par dire, en fait, la seule question qui, au final, m'intéresse, c'est celle de la bonté. Et c'est-à-dire une question qui est vraiment humaine, pour le coup. Et il dit, bon, au final, il aimerait que la poésie, ce soit la bonté, quoi.
Pas humaine, vous voulez dire à notre échelle, dans notre pouvoir, dans notre puissance.
Ce que l'humanité a le pouvoir d'amener, quoi. Mais elle fait un peu le contraire. Voilà, mais justement, elle dit, Penthesilée, quand elle est devant ce visage défiguré, donc celui qui a fait mourir le mort, il empêche la pitié, il empêche l'amour, donc en retirant au visage, quoi, voilà, je sais pas comment dire plus.
Ce que moi je peux dire, c'est que ce texte semble vous revenir comme ça, comme un poème en vous maintenant, Agnès Sourdillon. Alors vous allez le jouer dès demain pour 3 semaines, un peu plus de 3 semaines au Théâtre de Sartrouville,
un mois.
C'est pas le premier texte que vous portez en vous comme ça. Vous diriez que ça se passe comment? Vous diriez que ça s'inscrit comment à un texte qu'on doit dire pendant une heure?
Ben, je crois qu'il y a aujourd'hui, jour de la générale, c'est le jour de la table rasa que je dois faire. Faut que je pense à rien. Faut rentrer en scène. Enfin, il doit pas s'inscrire, il doit, je crois que c'est Bob Wilson qui dit à ses comédiens, il faut compter 1, 2, 3, 4, je rentre en scène. Donc en fait, là je suis à l'heure du lâcher prise. Je dois faire comme un parachutiste, je suis dans un avion, je dois vérifier le bon pliage de mon parachute.
C'est quoi le bon pliage du parachute?
C'est que je me casse pas la figure en montant sur une passerelle, que je sois bien dans les top repères, là où je commence à parler par rapport à la musique, que je sois bien dans la lumière qui est très belle mais pas très facile à trouver, des trucs hyper techniques. Ma première idole quand j'étais petite fille, c'était Nadia Comaneci, la gymnaste. Je crois que c'est une idole pour pas mal de comédiens, tout ça. Et voilà, je dois marcher sur une poutre où j'adore les funambules. Et mon métier est moins dangereux que le leur. Donc
vous gérez ça. C'est plus votre question, oui, le texte, en fait.
Oui, voilà, c'est plus ma question. Par contre, mon métier, il se travaille autant. En fait, en dehors, dans les périodes de vacances, et Dieu merci, on est intermittent du spectacle. C'est-à-dire qu'on a, pour le moment, le droit d'avoir du temps en dehors des temps d'embauche où on joue, pour se construire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime, etc.
Pourvu que ça dure.
Pourvu que ça dure. Allô. mais le moment de jouer, je crois que il y a presque une chose assez technique, voilà. Mais par contre, on doit être dans l'invention de ce qu'on raconte, quand même. Enfin, c'est un drôle de mélange.
Tout le temps.
Sur le moment, quand on raconte. Ce qu'on peut pas préparer, j'ai pas d'intonation. D'un soir à l'autre, ça a bougé. J'espère. Si ça se répète, c'est que je m'appuie sur ce que je connais et c'est pas très bon. Donc, il faut être à la fois dans l'invention, à la fois dans je saute de l'avion, quoi, voilà.
Je travaille avec la création du visible par l'invisible. Ça, les mains ont joué un très grand rôle, mais malgré tout, il faut bien le dire, on ne peut pas jouer dans l'art du mimodrame et du mime, on ne peut pas séparer les mains du corps. Si on joue seulement avec ses mains et les autres parties du corps ne suivent pas un mouvement, mais ne respirent pas en même temps dans une attitude, on est comme estropié. Donc, on peut isoler parfois les mains complètement, mais dans toute création, même si les mains jouent pour exprimer, le tronc joue, les jambes, même dans l'immobilité, sont placées, et on a l'impression d'une sculpture en mouvement, finalement. Quand vous regardez vraiment les grands sculpteurs comme Michel-Ange, Bourdelle, Despiau, Rodin, bien entendu, le génie de leur création, c'est qu'ils étaient en même temps des mimes pour moi. Parce qu'à travers l'immobilité, il crée le mouvement.
1995, c'est aussi une nuit magnétique. La traversée de la main, et c'est le mime Marceau qui s'exprime, Agnès Sourdillon. Bien sûr, les mains sont très importantes, dit-il, mais d'une certaine manière, quand je bouge les mains, il faut que le torse, il faut que mes jambes, même immobiles, bougent aussi avec moi. Vous n'êtes pas en train de cavaler sur la scène, dans cette mise en scène, vous n'êtes pas en train de bouger dans tous les sens, vous êtes en mouvement, mais souvent vous êtes comme ça, face à nous, presque mu par le texte d'une certaine manière. Comment vous entendez ce que dit le mime Marceau ?
Alors j'adhère, je crois que même si je bouge pas, effectivement, il y a tout mon sang qui part des orteils, qui remonte tout partout. Et tout à l'heure je discutais de l'apprentissage du texte. Et notre attachée de presse qui est à côté, là, Virginie Duval, me demandait ce que je pensais de comédiens qui disaient que quand ils apprenaient pour mettre en action tout leur cerveau, ils portaient des objets très lourds pour que le corps soit occupé à autre chose pendant que le cerveau travaille. Et je dis ah non, c'est tout le contraire. Moi, quand j'apprends, il faut que en fait c'est mes neurones de la mémoire, ils sont dans mes pieds, dans mes genoux. J'habite dans le 18e arrondissement à Paris, et Dieu merci, il y a un stade, le stade Championnet, qui est un stade gratuit de la mairie de Paris, et j'apprends tous mes textes en marchant. Je pense que même si dans le spectacle Penthésilée, effectivement, il y a pas mal de moments où je suis droite face, je pense que absolument tout mon, enfin que j'espère être traversée vraiment de tout mon corps. Je dissocie absolument pas tout s'écrit dans l'air, tout se...
Donc vous faites quoi ? Vous prenez le texte et vous faites des tours de stade ?
Je fais des tours de stade, je marche. Parce que la montagne est trop loin à Paris, alors ça se passe au stade, mais... Ah oui, ça se passe absolument dans le corps, quoi. Dans les yeux, dans le corps...
Dans vos yeux, à vous ?
Oui, on dit que pour chanter, on chante par les yeux plus que par la voix
aussi.
Ah
oui, c'est vrai, qui est-ce qui dit ça ?
Un prof de chant dont j'ai oublié le nom.
Marron.
Oui, qu'on...
Je trouve ça chouette de chanter par les yeux. Non, mais je sais pas, j'adore cette idée, j'ai envie d'y réfléchir.
On respire
un peu
par le ventre, ça c'est plus commun. Oui, c'est un tout, oui.
Le théâtre ne m'intéresse plus tellement quand il n'est pas réflexion sur le théâtre. Autrement dit, je ne m'intéresse plus, alors là je vous donne, comme on disait autrefois, mon credo artistique, je ne m'intéresse plus à un théâtre qui illustre des œuvres, c'est-à-dire à un théâtre suppose qu'il y a quelque chose dans le texte, enfin caché derrière les mots, qu'il y a quelque chose, qu'il y a une essence, et qu'il faut aller chercher ce quelque chose et puis essayer de l'illustrer au mieux. Ce théâtre, enfin cette manière de faire, de concevoir le théâtre a produit des spectacles admirables, mais je pense que enfin, premièrement, moi, ça ne m'intéresse plus. Et puis, j'ai l'impression aussi que cette manière de travailler est déjà vieillie.
1971, cette fois, c'est la voix d'Antoine Vitez. Agnès Sourdillon, il a quoi comme place dans votre parcours, Antoine Vitez ?
Ben, ça a été mon professeur. C'est 2 ans d'école. Tout d'abord à Chaillot, Théâtre National Chaillot. Et ensuite, comme il a été nommé à la direction de la Comédie Française, on avait cours dans les studios de l'Odéon. Alors Antoine Vitez, il m'intimidait terriblement. Tout le monde l'appelait Antoine, j'ai toujours dit monsieur. Et il n'aimait pas ça du tout. Et je crois que la première année, j'ai passé aucune scène. Et je regardais les autres travailler. Et puis c'est petit à petit que je suis rentrée. Mais je l'écoutais, je prenais en note ses cours. J'ai gardé des petits carnets. C'est quelqu'un qu'on pouvait écouter des heures. Quelqu'un qui aimait ses élèves, parce que c'est là où il pouvait aussi essayer des choses. Je sais pas si c'était un très très grand acteur, mais il nous montrait un petit peu, enfin, il aimait faire le clown devant nous, ses élèves. Et il montrait toujours en écartant très très fort les bras. Et alors ça, c'est ce que je garde de lui, mais je crois que tous les acteurs vitésiens, entre guillemets, on joue toujours les bras, ce qui est pas forcément génial d'ailleurs, mais grand écart. Des fois, je dois me forcer à garder les mains un peu le long du corps, quoi. Et je crois que Dominique Valadi, elle joue aussi comme ça. Toujours les bras grands ouverts, etc. Et après, c'est quelqu'un qui savait très bien, enfin, il y a dire le théâtre, les écrits de théâtre, vitesse. Enfin, c'est quelqu'un qui savait très bien réfléchir, qui écrivait tous les jours des notes. Enfin, un travailleur inlassable. Moi, j'ai beaucoup plus besoin de repos, de tout ça. Et donc, je peux l'admirer aussi pour ça. Sylvain Maurice, le metteur en scène du Penthésilée, c'est quelqu'un qui n'arrête pas non plus. Je suis très admirative de ces... des hyperactifs toujours dans ce qu'ils font, qui fatiguent jamais, quoi.
Et croit-on là...
Hein ?
Croit-on.
Croit-on, voilà. En tout cas, qui ont l'énergie, cette énergie à transmettre. Il y a de ça chez Vitesse. Après, je me sens pas dans... Il y a des acteurs qui se réclament vitésiens, etc. Je crois qu'en fait, ça me paraît très très loin. Parfois, mon enfance me paraît plus proche que mes 19 ou 20 ans où j'étais chez Vitesse. Il y a des drôles de sauts comme ça dans la mémoire. Et finalement, je sais que récemment, il y a une maison Antoine Vitesse, il y a un collectif d'anciens élèves, et j'ai pas du tout voulu participer à ça. Enfin, il y a quelque chose que j'ai un peu oublié. Et je me sens beaucoup plus dans ma famille, entre guillemets, avec Valère Novarina et tous les gens qui travaillent autour de lui, ou voilà, d'autres familles, quoi, voilà.
Dans cette archive, il disait que finalement, le théâtre qui, à un moment donné ou un autre, dans une de ses couches de compréhension, ne produit pas de réflexion sur ce qu'est le théâtre, l'intéresse un peu moins. Est-ce que vous diriez que de toute façon, quand on est au théâtre, quelle que soit la pièce qu'on joue, il y a un moment donné où on propose une sorte de pensée du spectacle, ou de pensée du théâtre, ou de pensée de ce que c'est que d'être comédienne et comédien, ou musicienne, musicien?
Moi, je n'aime pas trop penser qu'on me propose une vision des choses. J'ai même parfois un petit peu de mal. J'aime les engagements politiques. J'ai un petit peu de mal avec ce qu'on appelle le théâtre politique. Parce que justement, cette idée qu'il faut documenter les gens avec ce théâtre documentaire, ou qu'il faut convaincre, ça m'effraie un petit peu, parce que c'est rajouter une représentation du monde à ce qu'on voudrait justement dans le théâtre que j'aime, plutôt renouveler en retirant toute représentation. Donc je suis pas tellement pour... Moi, je suis plutôt pour faire le pari qu'on peut reconnaître dans une certaine nudité des choses, que les spectateurs peuvent reconnaître quelque chose d'eux. Il y a un poème de Pizarnik, Alessandra Pizarnik, c'est une poétesse argentine. J'avais fait une petite forme autour d'elle, tellement j'étais tombée amoureuse de ses écrits qui sont publiés chez Actes Sud, qui ont été édités, je crois, dans une collection d'Alberto Manguel. Et elle a un petit poème que j'avais replacé dans un spectacle que j'avais fait en 2017, donc il y a à peine 3 ans en fait, que j'avais proposé à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, qui s'appelait « Nu dans le bain ». Ça rejoint un des extraits qu'on a entendu tout à l'heure, où j'avais eu un peu cette folie d'interpréter une modèle dans un atelier de peinture. Donc j'étais nue comme un verre pendant 1h15, à mon âge, hein, c'est-à-dire 50 ans. Et c'est-à-dire plus l'âge normalement, mais c'est là que j'osais le faire finalement. Et de se dire qu'en fait, proposer cette nudité, ça avait rien de provoquant, ou que c'était au contraire de se dire que dans cette nudité, les autres pouvaient se reconnaître. Et j'avais rajouté donc ce petit poème d'Alexandra Pizarnik. Il est très très court. Je crois qu'il va me revenir. Pizarnik écrit, reçois ce visage à moi, muet, mendiant. Reçois cet amour que je te demande. Reçois ce qui en moi est toi. Et alors pour moi, l'échange au théâtre, enfin être sur scène, c'est ça, quoi. C'est un échange comme ça, mais on sait pas quoi, mais il y a à la fois on demande quelque chose, parce que c'est pas gratuit. Si on va sur scène, c'est, on appelle aussi un petit peu, reçois cet amour que je te demande aussi, quoi. C'est pas innocent.
On demande ça, d'après vous, quand on monte sur scène? Quelque chose de l'ordre de l'amour?
Ben, on demande l'amour en général, que ça existe, quoi. Voilà. Je sais pas. Je m'analyse pas trop là-dessus. Tout le monde me dirait que, mais oui, si tu vas sur scène, c'est que tu as un petit peu besoin, mais voilà. Je sais pas. C'est ma manière de... C'est une manière que j'ai trouvée de vivre.
Chez Kleist, le réveil passait par une grande douceur, comme par une purification. On la baignait dans une eau. Elle était baignée par sa sœur Protoé, que jouait Anne Wiazemski. Hommage à elle. Et de cette purification, de cet état de grand bonheur, naissait le réveil et la découverte de l'atrocité.
On termine avec plusieurs voix, mais notamment celle d'Anne Alvaro, qui était venue nous parler des Bacchantes, mais qui avait dit deux mots, justement, de ce texte de Kleist et qui parle du réveil. C'est une belle fin que de parler du réveil. Agnès Surdillon, est-ce que je vous laisse faire une sorte de générique fin ou de générique début pour cette pièce qui se joue à partir de demain au Théâtre de Sartrouville?
Eh ben, ça sera une invitation à tous à venir nous voir. Donc, on commence le mercredi 4 mars et on joue jusqu'au 27 mars, donc vous avez tout le temps de nous rejoindre, mais dépêchez-vous quand même, c'est très urgent. Et je voulais quand même citer les musiciens qui m'accompagnent et me soutiennent, et qui sont absolument formidables. Il y a Janice in the Noise, Ophélie Jo, Juliette Aleka, Diane Korolik, Mathilde Rossignol et Paul Vignon.
Dans une mise en scène de Sylvain Maurice. Merci beaucoup, Agnès Surdillon. À la prise de son ce soir, c'était Bernard Lagnel. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Romain de Bec de Lièvre, Marianne Chassor, Jeanne Aléos, Julie Ascal. C'est aussi une page sur franceculture.fr, la page de Par les temps qui courent, avec une petite enveloppe pour nous écrire. On est toujours ravis de vous lire. Et un podcast auquel on peut s'abonner, par exemple, via l'application Radio France. Dans un instant, 22h sur France Culture, c'est le journal.